Bonjour, vous écoutez l'épisode 29 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste chimiste et cofondatrice des soins bio, actifs et sensoriels Mastel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment bien choisir sa crème solaire. Donc c'est un épisode qui suit celui de la semaine dernière, donc je vous invite à écouter dans l'ordre, donc à réécouter celui de la semaine dernière pour une meilleure compréhension de celui d'aujourd'hui. Donc nous allons voir toutes les caractéristiques à prendre en compte quand on choisit sa crème solaire. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le SPF et comment on le mesure? Puis on va voir la protection contre les UVA et finalement la résistance à l'eau. Alors le SPF c'est un nombre supérieur à 1 qui caractérise la capacité d'un produit à protéger la peau des UVB. Donc SPF c'est pour Sun Protection Factor. Pour rappel, les UVB sont les UV qui sont responsables des coups de soleil, donc B comme brûlure, c'est le petit mnémotechnique dont on a parlé dans l'épisode précédent. Donc un produit, pour qu'il soit considéré comme un produit solaire, il doit avoir un minimum de 6, donc un SPF minimum de 6. Comment est déterminé le SPF? Donc le SPF, il peut se déterminer in vivo, donc c'est-à-dire sur des volontaires humains. Il va correspondre au rapport, donc c'est-à-dire la division, de la plus petite dose de soleil qui va déclencher un coup de soleil, avec une peau protégée du cosmétique, divisée par la plus petite dose de soleil qui va déclencher un coup de soleil sur la peau non protégée. Donc on parle de dose érythémateuse. En fait, un érythème, c'est une rougeur de la peau qui va disparaître quand on appuie dessus, donc c'est un coup de soleil quoi. Donc en termes scientifiques, ça va être la dose érythémateuse minimum de la peau protégée, divisée par la dose érythémateuse minimale de la peau non protégée. Donc ça va être le SPF. La protection naturelle de la peau des volontaires, elle va compter beaucoup dans la détermination du SPF finalement, vu qu'on voit que la dose érythémateuse minimale de la peau non protégée compte dans le calcul du SPF. Donc il faut choisir des volontaires à la peau claire uniquement. Alors pour prendre un exemple concret, si la peau rougit après 10 millijoules par centimètre carré sans protection, alors il faut une exposition de 300 millijoules par centimètre carré pour faire rougir la peau avec un SPF 30. Donc 10 fois 30, 300. Si on veut illustrer ça autrement, si on considère que les rayons du soleil sont constants, en fait si la peau rougit au bout de 10 minutes sans protection, alors si elle est protégée avec un SPF 30, elle va rougir au bout de 300 minutes, donc 5 heures avec un SPF 30. Alors tout ça, bien sûr, ce sont des calculs théoriques parce que dans les faits, la crème s'enlève avec les frottements, les baignades, etc. Donc il faut remettre la crème toutes les 2 heures ou après chaque baignade quand on s'expose. Donc on vient de voir qu'on peut illustrer le SPF en termes de durée d'exposition avant de rougir, mais on peut également le voir comme la filtration des UVB. Donc un SPF 2, ça correspond à une protection qui permet de doubler notre temps d'exposition avant de rougir. Donc on peut également le voir comme une filtration de 50% des UVB. Ainsi, un SPF 10 va correspondre à une filtration de 90% des UVB. Un SPF 30 correspond à une filtration de 96,67% des UVB. Et un SPF 50, c'est une filtration de 98% des UVB. Alors j'aimerais prendre 2 minutes là pour illustrer cette filtration d'une autre manière également. Donc on vient de voir que le SPF 30 filtre 96,67% des UVB. Donc c'est-à-dire qu'il laisse passer 3,33% des UVB. Un SPF 50, lui, filtre 98% des UVB, donc il laisse passer 2% seulement des UVB. Donc on peut se dire que la différence des deux, elle est très minime, entre 2% et 3,33% qui laisse passer les UVB. Mais en fait, si on fait le rapport entre les UVB que laisse passer un SPF 30 sur ceux que laisse passer un SPF 50, donc ça fait 3,33 divisé par 2, ça fait 1,665. Donc votre peau reçoit 67% plus de UVB avec une protection SPF 30 plutôt qu'avec une protection SPF 50. Est-ce que vous avez suivi? Parce que je peux récapituler, j'ai vu une grosse erreur sur les réseaux sociaux. Non, un SPF 30 ne laisse pas passer 150% des UV, ça c'est faux. Déjà, on ne peut pas laisser passer plus d'UV qu'il y en a initialement, à part si la crème multiplierait la quantité des UV, et ça serait encore pire que de rien mettre. Donc ça, c'est faux. Un SPF 30 ne laisse pas passer 150% des UV. Faux. Un SPF 30 filtre 96,7% des UVB, donc il laisse passer 3,3%. Ce qui correspond à 167% de la quantité laissée passer par un SPF 50, soit une augmentation de 67% de rayons qui endommagent votre peau en plus avec un SPF 30 en comparaison avec un SPF 50. C'est le même rapport entre 50 et 30. Donc à vous de voir comment vous voulez voir la protection solaire, si vous êtes plutôt à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Car dans tous les cas, soit on regarde la différence de filtration des UV, soit on regarde la différence d'UV qui arrive sur la peau. Quand on regarde la différence de filtration des UV, finalement, elle est très légère entre un SPF 30 et un SPF 50. Mais si on regarde la quantité d'UV qui arrive sur la peau, effectivement, après l'application de ces SPF, la différence, elle est très grande. Donc, encore une fois, choisissez votre SPF en fonction de votre phénotype, de l'ensoleillement et aussi de votre exposition. Donc tout ça, on vient de parler du SPF, on a dit que le SPF, c'était la protection contre les UVB uniquement. Mais qu'est-ce qu'il en est de la protection contre les UVA ? On a vu que le photovieillissement, lui, est majoritairement dû aux UVA. Mais on vient de voir que le SPF impliquait une protection contre les UVB uniquement. Donc pour vous assurer que vos crèmes protègent bien votre peau des UVA, faut chercher le petit logo UVA encerclé ou la revendication Broad Spectrum en anglais. Donc ces normes indiquent que la protection des UVA correspond à au moins un tiers du SPF. Donc par exemple, si votre produit c'est un SPF 30 et que vous avez le logo UVA encerclé, ça veut dire qu'il protège 30 fois plus longtemps la peau des UVB et 10 fois plus longtemps la peau contre les UVA par rapport à une peau sans protection. Alors, comment on mesure la protection contre les UVA pour s'assurer qu'elle est bien d'un tiers de celle des UVB, finalement ? Quelle est la méthode de mesure ? Alors, il existe plusieurs méthodes standardisées, donc par des standards ISO. Il existe le test in vivo, donc c'est-à-dire sur des êtres humains, donc c'est le ISO 24442, qui est basé sur la pigmentation de Merowski. Et il y a bien un test aussi in vitro, donc c'est-à-dire pas sur des êtres humains, qui est le test ISO 24443, qui lui va calculer la longueur d'onde critique. Donc le test in vivo, pour déterminer la protection contre les UVA, c'est presque le même que celui pour les UVB, à l'exception qu'on n'observe pas de la rougeur, donc le coup de soleil après exposition, mais on va observer la pigmentation de Merowski. La pigmentation de Merowski, c'est une coloration gris-bleu qui va se développer pendant l'exposition aux UVA. Donc c'est une couleur qui est caractéristique de la photooxydation des précurseurs incolores de la mélanine, donc les mélanines qui est le pigment de la peau. C'est une méthode qui est reproductible, mais elle se fait seulement sur les peaux mates. Du coup, cette méthode, due par son observation, elle ne va pas permettre de tester des produits colorés. Le test in vitro, quant à lui, se fait pas sur des volontaires, mais sur des plaques de PMMA. Donc il va permettre de déterminer la longueur d'onde critique de l'absorbance lorsque le produit est étalé sur une plaque de PMMA. Et c'est une mesure mathématique parce qu'on va évaluer la capacité d'un produit à protéger des plus hautes longueurs d'onde. Donc pour les professionnels, la longueur d'onde critique, elle, doit être égale ou supérieure à 370 nanomètres. Alors je vous invite à voir les notes de cet épisode sur mastelcosmetics.com pour une meilleure visualisation de ce test in vitro, je vais vous mettre une petite courbe et comme ça on comprend mieux ce qu'est la longueur d'onde critique. Ensuite, une autre caractéristique qu'on peut prendre en compte pour le choix d'une crème solaire, c'est la résistance à l'eau. Certains produits solaires, ils peuvent être considérés comme résistants ou très résistants à l'eau. Ces revendications assurent donc leur bonne tenue après une baignade. Donc ça, c'est bien si vous prévoyez de mettre la crème quand vous allez vous baigner à la mer ou à la piscine, à la rivière, peu importe où vous allez, si vous prévoyez une baignade, c'est bien de regarder si votre produit est effectivement résistant à l'eau. Donc il n'existe pas de méthode in vivo ISO standardisée pour mesurer la résistance du produit à l'eau, ce qui peut amener des assez grandes différences de mesure d'un laboratoire à l'autre. Et en plus, là encore, la réglementation est différente d'un pays à l'autre, donc c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver, mais de manière générale, le test in vivo se fait sur des volontaires après qu'ils aient passé 40 minutes ou 80 minutes dans l'eau, donc pour savoir si c'est résistant ou très résistant à l'eau. Et par exemple, en Europe, les cosmétiques doivent avoir une protection des UVB après la baignade qui est supérieure à la moitié de leur SPF de base pour être labellisé résistant à l'eau ou très résistant à l'eau. Alors qu'en Australie, C'est plus difficile car le cosmétique doit rester dans la même catégorie de SPF pour avoir cette revendication. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur votre crème solaire et comment la choisir. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur mastelcosmetics.com et vous pouvez retrouver notamment le petit graphique avec la longueur d'onde critique. Tout ça, c'est dans la rubrique podcast du site. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ces podcasts, vous allez adorer le compte Instagram qui lui aussi a une petite série de posts sur les solaires. Vous pouvez nous retrouver sous l'identifiant Mastel Cosmetics, donc Cosmetics en anglais au pluriel, et Mastel Cosmetics, c'est tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Alors je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode sur la composition des produits solaires. On va voir la différence entre les différents filtres UV qu'on peut retrouver dans une crème solaire, donc les filtres minéraux ou les filtres organiques, et on va parler de manière générale des différents challenges de la formulation de produits solaires. Bonne semaine, bye !